Michel, notre deuxième partie du sommaire prévoit que tu nous parles de ce que tu appelles la chronique d'une mort annoncée concernant la presse, essentiellement la presse écrite,
Oui,
et au
l'État
niveau
classique.
d'ailleurs quasiment mondial.
Oui. Alors, pourquoi cette chronique? Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un petit billet de Bernard Lecomte, qui est un journaliste, qui fut un temps journaliste au Figaro, était au Monde d'ailleurs, et qui tient un blog que je trouve très intéressant. Billet très court, très, très vif, bon, ce que j'aime faire, quoi. Et Bernard Lecomte, le lisant, note dans son blog, je ne sais plus quel jour précisément, qu'aux États-Unis, sur les 3143 comtés. Alors, les comtés aux États-Unis, c'est l'équivalent du département
C'est
ici,
des
quoi.
Subdivisions dans un État,
Voilà,
dans les
en
États.
gros, c'est des départements, hein, qui comptent, alors, 3143 comtés, qui composent le territoire des États-Unis. Plus de 2000 comtés n'ont plus de quotidien local. D'accord? Et 200 n'ont plus de journaux du tout. Du tout. Hein. Et ailleurs, dans les autres comtés, les organes de presse qui n'ont pas encore fermé n'ont plus les moyens de couvrir la vie politique ou intellectuelle de ces comtés, toute la pub étant partie sur Internet.
Ben voilà, et ceci depuis encore plus longtemps que chez nous.
De sorte qu'on parle, là, aux États-Unis, de journaux fantômes. C'est pas moi, hein, guillemets, journaux fantômes, n'existe plus, quoi. Hein. Donc, conclusion, une part croissante des Américains, moyen,
Mais
n'est
heureusement,
donc plus informée.
Sauf qu'ils ont les tweets de Trump.
Ils n'ont plus d'informés, on va y venir. Que parler télé locale et les réseaux sociaux, hein. Et Trump, d'ailleurs,
les tweets de Trump.
Trump est le symptôme même, hein, de cette révolution en cours de cet univers médiatico-politique. Je ne distingue pas les deux, parce que les deux, on comprendra pourquoi. Et Trump, d'une certaine manière, encore une fois, est le parfait symptôme, en fait, hein, humain, quoi, de cette révolution, en fait, numérique, qui est en train d'opérer des bouleversements considérables dans tout un tas de secteurs. Le médiatico-politique n'échappant pas, effectivement, à cette évolution. De sorte que la conséquence de ça, c'est, comme pour faire une allusion à un auteur bien connu qui est Michel Houellebecq, c'est l'extension du domaine du buzz. C'est pas l'extension du domaine de la sexualité, là, c'est l'extension du domaine du buzz et du lynchage quotidien qui va avec.
Le buzz, rappelons quand même que ça veut dire grosso modo en français la rumeur qui court.
La rumeur qui court. Hein,
rappelons donc, un chat, un chat.
De sorte que, et on joue là-dessus évidemment pour avoir le buzz, sur un distinguo classique mis à l'époque. Fort antique, hein, par Aristote classique, hein, c'est-à-dire on joue sur les passions dites fortes, hein, la peur, en fait, et la pitié.
Oui. Ça, c'est pas nouveau, puisque tu cites Aristote.
À l'origine de la tragédie, hein, telle que Aristote l'avait effectivement exposée, en fait, présentée. Et alors, pitié, peur, haine, fait, amour, enfin, ben, bref, on peut décliner, quoi. Hein, tout est structuré aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en matière d'information, surtout avec l'arrivée de la télé-information en continu, hein, les BFM et compagnie, à qui il faut tous les jours, en fait, à chaque instant, pour alimenter la machine, hein, un scandale, en fait, quelque chose qui puisse effectivement faire du buzz.
Et ça fonctionne un peu comme les séries télévisuelles.
Exactement.
Hein.
Donc, c'est pour ces chaînes, pour les réseaux sociaux, il faut pratiquement tous les jours un coupable et un lynchage à avoir sous la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suit, on guette, les élus, bon, peu importe les élus, les artistes, bon, peu importe les publics. Et puis, bon, avec la caméra, on essaie de capter, la phrase qu'on va couper,
tronquer,
pour effectivement faire dire, la phrase en question, l'inverse, le contraire, ou n'importe quoi d'autre que ce que l'auteur de cette phrase en question a voulu dire dans le contexte du moment. Donc, on en est là aujourd'hui. Alors, aux États-Unis. Mais en France.
On n'en est pas loin.
On n'en est pas loin. Alors, il est bien connu, hein, on va terminer là-dessus, que, en France, on fait cinq ans après, hein, ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je laisse à nos auditeurs le soin de réfléchir quelques instants à à ce postulat.
Oui, bon, cela dit, les États-Unis sont les États-Unis. La France, comme aurait dit De Gaulle, étant la France, il y a quand même un certain nombre de différences qui persistent et qui persisteront peut-être dans le bon sens et dans le mauvais.
Cela dit, quand je fais référence à, et quand je mets en évidence Trump, certaines formes de populisme, et ce type de réalité qui est en train de structurer l'univers médiatique, et quand je dis dans 5 ans, il peut effectivement se produire en France ce qui s'est déjà produit aux États-Unis.
Ah oui,
c'est pas par hasard.
C'est pas tout
Je laisse à nos auditeurs le soin d'en tirer la conclusion politique, enfin, je vais le dire à l'instant. Et bon, voilà.
Cela dit, sur le plan du timing, je te ferai remarquer qu'on donne beaucoup de leçons à tous les pays étrangers en matière de populisme, en les accusant de voir naître un populisme aujourd'hui, et en oubliant que chez nous, le Front National a 10-15%, il date de quand ? Des années 80 ? Mais c'est ce 30 ans.
Oui, mais c'est ce que je viens de dire à l'instant. Alors, mais
sauf est-on que, bien sauf placé pour donner des leçons.
Sauf qu'aujourd'hui, Jean-Claude, il y a une concurrence au populisme, en fait, dans notre pays, en fait, qu'il soit de gauche ou de droite, en fait, ou du milieu, tout le monde y va, quoi, hein. Et comme le faisait correctement remarquer Dominique Régnier, qui fut, bon, le candidat, en fait, d'un certain parti dans notre région, qui est un analyste politique que je considère comme intéressant, j'ai remarqué que le populisme, c'est pas le peuple, hein. Ce sont des élites, c'est l'élite politique, une certaine élite politique qui joue effectivement du populisme et qui structure le politique. Oui. Ce sont toujours des politiques et une élite politique qui est à la marge en fait, du marché politique, qui effectivement va être au milieu et qui, pour ce faire, fait du populisme.
Il n'y a pas de populisme sans une récupération, bien entendu. Voilà. Passons au deuxième sujet, Michel, c'est le bal masqué des municipales et son extension, dis-tu, vers les, vers les communautés d'agglomération, les agglos, pour parler
simple. Oui, samedi dernier, on recevait à Édouard Rocher, le maire radical de Coursan, en même temps de gauche et de droite, j'avais fait remarquer d'ailleurs à l'époque, depuis la fusion, hein, PRG, fait radical.
Oui, d'ailleurs, il n'a pas démenti, franchement, quand il lui a posé la question.
Non, effectivement. Hein. On comprend bien pourquoi je fais c'est en même temps, évidemment, parce que c'est un radical marcheur aussi, hein, notre ami en fait, Édouard Rocher. Mais bon, il est jeune, lui, il est candidat à sa succession, c'est bien normal, il est ambitieux, ce qui chez moi n'est pas du tout en fait, un défaut, bien au contraire. Quand une ambition est au service d'un projet, bon, moi je trouve ça tout à fait honorable.
Quand l'ambition est un bon moteur.
Exactement. Hein. Donc, mais bon. C'est l'occasion aussi pour moi de rebondir sur un sujet, d'autant que Didier Mouly est ici, en fait, notre invité. Alors, on s'en souvient peut-être pas, mais pendant les dernières élections municipales, de Narbonne notamment, en fait, hein, cette question des rapports entre les élections municipales et les élections communautaires avait été complètement passée sous la table, absente totalement des débats entre les listes concurrentes. À croire qu'effectivement, pour cette élection en fait, municipale la dernière fois, l'agglo n'existait pas.
Il faut dire que le mode d'élection des conseillers communautaires n'incite pas non plus vraiment à une ouverture d'esprit
bien
dans
dur.
Ce domaine-là.
Hein. Bien dur. Mais on va y revenir. Alors moi, je me suis amusé pendant cette campagne justement à faire des billets fait, quasiment en permanence pour dire, mais attendez, messieurs les élus, aux candidats au fauteuil de maire, hein, toutes les actions structurantes enfin, qui doivent structurer votre territoire communal, le transport, les zones d'activité, faites les réseaux faites de toute nature,
tout
c'est
ça,
pas
c'est,
vous.
C'est de l'agglo.
C'est l'agglo.
Ouais, oui.
Vous pouvez pas me dire je vais améliorer les zones d'activité comme je l'ai lu fait, pendant la campagne des dernières municipales, moi, fait, candidat fait, à la mairie de Narbonne, alors que vous n'avez aucune compétence en tant que maire pour le faire. C'est pas vous. Donc vous racontez des salades, disais-je à l'époque. Hein, ou alors vous n'avez pas forcément bien compris quelle était l'articulation entre les deux et revoyez votre géographie administrative pour mieux vous y situer, me disais-je à l'époque. Hein. Bon.
Bon, entre-temps, il y a eu l'épreuve des balles, si je puis dire.
Oui, et depuis, il y a eu l'épreuve des faits parce que les maires en question, notamment le maire de Narbonne, quoi, le nouveau maire de Narbonne, il a passé son temps à se rendre compte que, en zappant l'agglo, quand il a fallu élire le président de l'agglo, à la surprise de tout le monde, sauf de la mienne d'ailleurs, entre parenthèses, c'est son perdant sur Narbonne, Jacques Bascou, qui se fait élire à sa place.
Oui, ben on
grâce à des voix des droites, paradoxalement. Qui n'était pas Maradon, il va expliquer pour quelles raisons, en fait, ces deux ou trois voix iraient effectivement sur Jacques Bascou. Et la démonstration a été faite à ce moment-là, de mon point de vue. Qu'à zapper effectivement l'agglo, en fait, sa logique, en fait, ses accords antérieurs politiques, eh bien, on risquait de se retrouver dans une position plus que difficile. Pam, effectivement, Didier Mouly, battu.
Et y compris ses contradictions au niveau électoral, parce qu'il reste une contradiction quand même.
Et deux, alors, et ensuite, bon, pendant le cours du mandat en question, on a pu constater aussi, en fait, hein, que, bon, sauf sur des points un peu mineurs, quoi, hein, des rapports entre les deux villes, que sur des gros dossiers structurants, il y avait plus que des débats, il y avait des contradictions sérieuses, bon, entre le maire de Narbonne et le président de l'agglo. Je pense notamment à la salle multimodale dont on parle d'ailleurs entre parenthèses.
Oui, entre autres, sur laquelle on va probablement revenir encore.
Entre autres, hein. De sorte que je disais, en fait, dans ce billet, j'ai écrit que demain, c'est-à-dire en prochaine élection municipale, on ne pourra pas se passer, en fait, quand, si on est candidat à la mairie de Narbonne, par exemple, on ne pourra pas se passer de l'agglo, on ne pourra pas rien dire sur l'agglo.
Donc ne plus refaire les mêmes erreurs, entre guillemets,
bien
qui
sûr,
ont pu
d'autant
être
que,
faites à un moment.
D'autant qu'en plus, quand on élit, en fait, quand on donne son bulletin de vote pour une liste, en futur maire à Narbonne, on élit en même temps aussi les conseillers communautaires.
Oui, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui s'en est rendu compte. C'est tout le problème.
Eh bien oui, mais le problème, justement, est à nos élus de faire un peu de pédagogie. C'est pour ça que je disais en conclusion de mon billet, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, Jean-Claude, que demain, enfin moi je ne sais pas, si j'étais à la place de...
Demain, il faudra lui faire ça.
Si j'étais à la place de Didier Mouly, je dirais, écoutez, messieurs, si vous voulez que j'applique ma politique sur Narbonne, donnez-moi le maximum de voix et donc la majorité dès le premier tour pour que j'ai le maximum de délégués communautaires.
Voilà,
comme ça, je gérerai à la fois le petit quotidien, la propreté, au centre-ville de Narbonne, mais aussi les grands domaines structurants qui, sur ma vie, effectivement, ont des conséquences importantes.
Voilà, j'imagine.
Le conseil que je me permets, modestement, de donner.
Et j'imagine que Didier Mouly ne dira pas non à ce genre d'idée. Il la reprendra même peut-être à son compte. Qui sait?
En tout cas,
on marque une deuxième pause et tout de suite après, Didier Mouly lui-même aura la parole sur le sujet.